Rosny est né après le naufrage. Nous parlions de la dernière catastrophe maritime. Chacun y allait de sa petite anecdote ou de son trait de mœur. On aurait cru que la plupart d'entre nous avaient fait le tour de l'océan, mais au fond nous ressassions et déformions des faits déjà 100 fois ressassés et déformés. C'est le sort des réalités humaines. Toutes, par le secours de la parole ailée, se transforment en fables. Seul le commandant Desgenais, qui avait longuement parcouru la planète, gardait le silence. À la fin, cependant, il se mit à dire « Moi aussi, j'ai fait naufrage. J'ai eu seul la chance de revoir, après le désastre, la divine lumière. Je revenais d'Égypte sur un paquebot sénile, au rouage essoufflé, mais à la carapace encore résistante. La tempête nous saisit, presque en vue des côtes de France. Elle fut formidable. La triste demeure flottante tantôt croulait au fond d'un gouffre, tantôt s'élevait sur les collines écumeuses. La puissance et la sagesse humaine devenaient semblables à la puissance et à la sagesse de quelques fourmis saisies par un torrent. Le capitaine faisait ce qu'il pouvait. Le torse lié à la passerelle, il rugissait stoïquement des ordres dans le porte-voix. L'heure du destin était venue. Les vieux flancs du navire craquèrent sur un écueil. L'eau souveraine saisit sa proie, et 5 minutes plus tard, je flottais sur le désert liquide, frénétiquement accroché à une futaille vide. L'épouvante et la volonté se partageaient mon âme. Je croyais que j'allais mourir, mais cela ne diminuait en rien mon énergie. Ce qui finit par la diminuer, c'est que l'eau entra plusieurs fois par les narines ou par la bouche. J'étouffais, je sentais faiblir mes muscles, lorsque dans un moment où la vague me soulevait, la vie entre la côte et moi un canot monté par un seul homme. Ce canot prenait à mes yeux quelque chose de fantasmagorique. Son unique occupant était un naufragé comme moi, ou, hypothèse insane, était-ce un sauveteur? Ces questions, vous pensez bien, passèrent dans ma cervelle en une fraction de seconde. L'instinct dominait, l'instinct qui me poussait sauvagement vers la barque. Les circonstances me favorisèrent. Un tourbillon saisit mon épave et la maintint à peu près en place, tandis qu'une vague tangente amenait le canot à peu de distance. Je vis l'homme ramer désespérément. Il fut à quelques brassées, puis tout proche. Et dans la fureur des météores, il réussit à me hisser dans sa coquille. « Zaïe !» hurla-t-il. « La veille est pour nous, je sens, du verbe, du nerve !» C'était un type au visage herbert, les cheveux plats, le nez en cimetière, et qui, lorsqu'il criait, montrait des dents de chacal. J'étais remis à ramer. Une fureur héroïque crispait ses lèvres. Par moments, il poussait une clameur ou une injure. « Piquet, rose de mer, pas peur, oh, quand on a peur, oh, et vous mangez, va donc !» J'étais inerte. Une paix extraordinaire m'était venue. Je me sentais comme déchargé de ma personne. Cet homme avait pris mon sort en charge. Cependant, la côte approchait. Elle était hérissée de falaises, pleine de pièges, mais on apercevait aussi une longue plage qui nous faisait face. « C'est là qu'il faut arriver !» ricana l'homme. « Si on se flanque contre la falaise, il y aura des embêtements. Mais nous avons la veille. » Nous l'eûmes effectivement. Après quelques soubresauts, la barque échouait sur le sable. « Haine sauvée ! La rosse de mer, elle est bernée !» mugit mon provençal. « Voyez-vous, quand on a la veille, aujourd'hui je chantais que j'irai jusqu'au bout, dès le moment où j'ai filé à votre secours. » « Comment ? » m'écriai-je avec stupéfaction. « Vous aviez pris la mer pour me sauver ? Un peu, bonbon. Je vous suivais de là-haut, tenez. Et de me penser que vous étiez là, tout seul, me crevait le cœur, je me dis. Pascal, si t'es pas un lâche, t'iras jouer la partie avec lui, bagasse. Et comme je me suis obstiné, bien, ben j'ai marché, quoi. Mes yeux étaient pleins d'eau. Je regardais ce brave homme avec une exaltation de reconnaissance. Et lui, ayant saisi les deux mains, « Ah, mon ami, m'écriai-je, mon héros, c'est entre nous à la vie et à la mort. Vous emballez pas, riposta-t-il, avec un attendrissement sur sa face bistrée. C'est tout naturel, mais, et puis, soyons pratiques, il faut se sécher, se réchauffer et manger un morceau. » Il me conduisit dans une bastide de reconstruction solitaire et lézardée, où il alluma un feu d'épave. Ensuite, il me donna de grossiers vêtements de rechange et se mit à cuire quelques poissons. Je fis là, avec ces poissons, des olives, du pain dur et une poignée de figues sèches, un repas magnifique, pendant lequel l'homme me raconta des histoires pleines de saveur, de réalisme et de malice méridionale. Après quoi, je lui exprimai une fois de plus ma reconnaissance. Je me sentis saisi par une invincible torpeur. Vous êtes mort de fatigue, remarqua mon hôte. Il n'y a qu'une chose à faire. Mettez-vous là et roupillez. Il n'y avait qu'à lui obéir. Je m'étendis sur un matelas de varech. Je tombai dans un sommeil profond, et qui pourtant fut interrompu par je ne sais quelle inquiétude du subconscient. Je n'ouvris pas tout de suite les yeux. Et quand je les rouvris, ce ne fut qu'à peine. À travers mes cils, j'entrevis mon sauveur près du feu. Il palpait mes vêtements qui séchaient sur une corde. Tout à coup, je vis qu'il tenait mon porte-monnaie. Il l'examina un instant d'un air rêveur, et l'ayant ouvert, il eut un tressaillement. Puis, avec précaution, il tourna le visage de mon côté. J'avais fermé les yeux. D'instinct, je respirais comme on respire pendant le sommeil. Alors, avec un soupir, il plongea ses gros doigts dans le porte-monnaie qui était bourré. Il en retira 3 ou 4 pièces d'or et le remit en place. Hélas, conclut le commandant, cet homme avait risqué sa vie pour sauver la mienne. Il avait été héroïque, généreux, hospitalier et même délicat. Il méritait que je m'élevasse comme un frère. Il n'aurait eu qu'un mot à dire pour avoir la moitié de ma fortune. Il me chipait pitoyablement quelques louis. Ah, que l'âme humaine est incohérente!